Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Sénégal, au procès de 29 djihadistes présumés au tribunal correctionnel de Dakar, condamnation de plusieurs prévenus aujourd'hui à de lourdes peines de prison. Makhtar Diokané, décrit par le parquet comme l'idéologue du groupe, a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Trois autres prévenus se sont vus infliger 15 ans de travaux forcés, 5, 10 ans et trois autres, 5 ans. L'imam Alioune Daou, accusé d'être le coordonnateur du groupe, a été, lui, condamné à un mois de prison avec sursis pour détention d'armes sans autorisation. Et 14 autres prévenus ont été acquittés. Les accusés, dont trois femmes, étaient poursuivis notamment pour actes de terrorisme par menace d'attentat, association de malfaiteurs, financement du terrorisme et détention d'armes sans autorisation. La plupart ont été arrêtés en 2015 au Sénégal. Makhtar Diokané, lui, a été interpellé au Niger à la suite d'une affaire de fausse monnaie, puis remis au Sénégal. Il a été reconnu coupable d'actes de terrorisme par association de malfaiteurs et s'est vu infliger la plus lourde peine de prison. On reste au Sénégal. Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, se disent déçus de la décision de la cour d'appel de rejeter la demande de libération de leur client. Ils sont déterminés à poursuivre le combat à l'international pour obtenir sa remise en liberté. Khalifa Sall a été condamné en première instance à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics. Et le 29 juin, la cour de la CDAO a jugé arbitraire sa détention préventive ainsi que la violation de son immunité parlementaire. Abdourahmane Dia a joint à Dakar l'un de ses avocats, Maître Amadou Ali Khan.
Je voudrais, comme peuvent le constater tous les juristes, regretter que la justice sénégalaise ne fasse pas cas d'une décision qui est exécutoire et qui s'impose à elle, qui est donc en l'occurrence un arrêt de la Cour de la CEDEAO. Quand on lit cet arrêt qui dit que le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été respecté pour nos clients, s'agissant de M. Khalifa Sall, à partir du moment où il a été élu député, son maintien en détention était devenu arbitraire, qui dit enfin que le procès n'a pas été équitable. Je pense qu'au vu de cette décision, tous les juristes d'Afrique, du Sénégal et du monde entier s'attendaient à ce que la conséquence droit qui en soit tirée soit, un, la liberté d'office des prévenus, deux, l'annulation du jugement qui a été rendu en première instance.
Les avocats de l'État disent que l'arrêt de la Cour de la CEDEAO n'est pas contraignant. Vous êtes d'accord?
Non, l'arrêt de la Cour de la CEDEAO est très contraignant. Cela résulte du protocole d'accord qui a créé même la Cour de la CEDEAO. Dans le texte de la CEDEAO, le texte qui organise la Cour, il est clairement indiqué que les décisions de la Cour sont exécutoires vis-à-vis tous les États partis au protocole de la CEDEAO. Et ces décisions, non seulement sont exécutoires, mais elles le sont à partir du moment où elles ont été prononcées.
Quelle est la prochaine étape de votre combat?
Dans les prochains jours, nous allons essayer de faire comprendre cette réalité à l'opinion publique nationale et internationale. Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à attendre d'une cour qui dit qu'elle n'est pas liée par une décision rendue par une juridiction communautaire.
Maître Amadou Ali Khan, joint à Dakar au Sénégal. Au Nigeria, la police a annoncé mercredi l'arrestation de 8 djihadistes présumés. Ils auraient participé à l'enlèvement il y a 4 ans de plus de 200 lycéens à Chibok dans le nord-est du pays. Les détails avec Irénée Herman Ungbo.
Au total, 22 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés et présentés au public par les forces de l'ordre à Maiduguri, la capitale de l'État du Borno. En dehors des 8 présumés djihadistes qui auraient participé à l'enlèvement des lycéennes à Chibok, les 14 autres sont soupçonnés d'avoir participé à la préparation d'attentats suicides à Maiduguri et dans d'autres villes du nord du Nigeria. Selon le commissaire de police de l'État du Borno, Damien Choukou, ces hommes âgés de 20 à 48 ans, tous originaires de la région de Bama, ont été arrêtés début juillet dans les États voisins du Borno et de Yobe. Les 8 suspects liés à l'enlèvement de Chibok ont tous avoué leur culpabilité, a-t-il indiqué. Ils ont également fourni à la police des informations utiles pour arrêter d'autres commandants en fuite de Boko Haram. L'enlèvement de masse de 276 lycéennes de l'internat de Chibok en avril 2014 avait suscité l'indignation indignation du monde entier. Un total de 57 filles avaient réussi à s'échapper peu après le kidnapping, tandis que 107 autres ont pu être retrouvées ou libérées suite à des négociations entre le gouvernement et les insurgés.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En RDC, l'Assemblée nationale et le Sénat ont été convoqués en congrès ce jeudi pour suivre un message à la nation du président Joseph Kabila. Il s'agit d'un discours très attendu qui devrait dissiper les doutes sur un éventuel troisième mandat consécutif du chef de l'État que redoutent ses opposants. Pour rappel, le deuxième et dernier mandat du président Kabila s'est achevé depuis décembre 2016. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Cette adresse à la nation devant le Parlement réuni en congrès intervient dans un contexte particulier, à 5 mois des élections, mais surtout à moins d'une semaine du début du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre courant. Quoiqu'ayant rappelé plusieurs fois qu'il respectera la Constitution qui ne lui permet pas un troisième mandat consécutif, les opposants au président Kabila, la Conférence épiscopale nationale du Congo comme une bonne partie de la population attendent du chef de l'État une déclaration claire sur le fait qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. D'autant plus que certains cadres de sa famille politique n'ont cessé de rappeler ces dernières semaines leur volonté de le voir se représenter à nouveau. Cette adresse devrait également être pour Joseph Kabila une occasion de rassurer la nation à 5 mois des élections quant à l'aboutissement heureux du processus électoral en cours, au respect des engagements contenus dans l'accord de la Saint-Sylvestre dont une partie de l'opposition appelle toujours à l'application intégrale ainsi que sur le financement des élections que le gouvernement de la RDC a décidé de prendre totalement en charge. Une chose est sûre, comme l'a affirmé la semaine dernière à VOA Afrique, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le président Kabila devrait annoncer des décisions importantes ce jeudi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En RCA, retour au calme ce jeudi dans le quartier musulman du PK5 à Bangui, où une personne a été tuée et 2 blessés au cours de combats dans la nuit de mercredi à jeudi. L'affrontement a duré environ 1 heure. Il y a eu beaucoup de tirs, a déclaré un habitant du quartier, en soulignant que le corps sans vie d'un homme a été déposé à la mosquée du quartier. Selon d'autres résidents, des hommes armés non identifiés ont attaqué vers minuit la base de la milice de Nimeri Matar Djamous, alias Force, établie au PK5. L'homme décédé est un milicien de Force, affirme ces mêmes sources. Toute l'Afrique du Sud a salué mercredi l'héritage de Nelson Mandela, l'icône de la lutte anti-apartheid. L'ancien président américain Barack Obama et l'archevêque Desmond Tutu lui ont notamment rendu un vibrant hommage. Claire Morin-Gibault.
Nelson Mandela aurait eu 100 ans cette année. Si les célébrations ont enflammé le pays, 5 ans après sa mort en 2013 et près d'un quart de siècle après la chute officielle de l'apartheid, ses rêves d'égalité économique restent toujours lettre morte. Avec des salaires médians de 10 000 rand chez les blancs contre 2 800 chez les noirs, la société sud-africaine est aujourd'hui la plus inégalitaire du monde. Sur le plan des festivités, devant près de 200 jeunes réunis à Johannesburg, Barack Obama a rappelé le combat de Mandela. Desmond Tutu, le compagnon de lutte de Madiba, a lui apporté une note plus personnelle et moins politique, en saluant un homme parfait exemple d'humanité.
Actualité américaine pour terminer, le président Donald Trump a tenté encore une fois hier de rassurer la classe politique et l'opinion sur sa fermeté vis-à-vis de la Russie après son sommet avec le président russe Vladimir Poutine. Les détails avec Nicolas Pinault.
Aucun président n'a été aussi ferme que moi sur la Russie. Je pense que le président Poutine le sait mieux que quiconque, sûrement mieux que les médias, a déclaré le président américain hier depuis la Maison-Blanche. Regardez les chiffres, regardez ce que nous avons fait, regardez les sanctions, a insisté Donald Trump en vantant sa fermeté face à son homologue russe. En début de semaine, le directeur du renseignement américain Dan Coats a mis en avant les évaluations claires de ses services sur une ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et évoqué, je cite, les efforts en cours de Moscou pour saper la démocratie américaine. La Russie, qui a de son côté salué le sommet d'Helsinki comme un grand succès, a déploré l'arrestation aux États-Unis d'une de ses ressortissantes, accusé d'avoir tenté d'influencer en secret des organisations politiques américaines au profit de la Russie.
Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.